Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles et nous vous souhaitons une excellente année 2025 pour cette rentrée. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2025, en direct de 19h à 20h, et vous pourrez retrouver cette émission demain de 9h à 10h sur Radio Galère, ainsi que sur Spotify lorsque vous cherchez La Forêt des Possibles. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. Et vu l'actualité du moment, je pense que nous avons vraiment, vraiment besoin d'avoir ces partages d'expériences. Parce qu'en découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés et pourraient penser que face à des gigafeux qui touchent les États-Unis ou l'arrivée du fascisme dans certains pays clés de la démocratie, on pourrait se sentir en danger. Et pourtant, ensemble, ils forment une alternative. Ils forment une grande forêt qui, chaque jour, s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte nos besoins humains, tout en respectant également les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible, et même nécessaire, de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Marin Moffret et je suis accompagné ce soir par Jeanne Rey au micro. Bonsoir Jeanne.
Salut à tous, bonne année.
Bonne année, merci. Et nous avons en régie Sidi Diallo et Félix Stédelin qui sont là pour rendre cette émission possible. Laure, sachez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tout à fait dans le même studio que d'habitude. Donc merci à toi, Sidi, de faire cette régie-là et Félix d'être venu. Et surtout, notre invité du soir, Zinedine Elaïli. Bonsoir, Zinedine.
Bonjour, Marin.
Je suis vraiment extrêmement content de te recevoir, Zinedine. Zinedine, ami depuis maintenant 6 mois, 9 mois. On est dans le même incubateur dans les quartiers nord à Sainte-Marthe, à l'Épopée. Et tu nous as accompagné sur la Forêt des Possibles pour nous donner tout un tas de conseils. Et puis ensuite, ça a été des grandes discussions qui nous ont amené à parler de justice sociale et d'une approche de Marseille qui soit beaucoup plus juste dans le partage des richesses entre des personnes qui ont beaucoup et ceux qui ont tellement de besoins, et comment est-ce que tout ça s'entremaille. Et pour ça, tu as créé une structure qui s'appelle Allomigo, qui fait du lien en fait entre les grandes entreprises et un certain nombre d'associations. Mais tu nous as aussi dit que tu ouvrais vers d'autres secteurs et on aura l'occasion de pouvoir en parler. Et sans plus attendre, eh bien, on va commencer. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, vous connaissez un peu maintenant la petite musique du moi au nous et du nous au tout. Notre idée, c'est de vous inviter, à vous qui nous écoutez, de vous dire que vous aussi, vous pouvez vous projeter dans un parcours. Vous aussi, vous avez vos questions. Vous aussi, vous avez cheminé en vous disant « ça, c'est possible, ça, ça l'est pas ». Et de toute façon, le monde est trop complexe. Et pourtant, vous écoutez ces parcours de personnes qui mènent des choses et ensemble, tous ces projets qui arrivent à transformer la société. Zinedine, j'aimerais qu'on puisse commencer par tes racines, ton chemin, et que tu puisses un petit peu, avec tes mots, te présenter.
Merci, Marin. Alors, je suis né à Marseille en 94, donc j'ai 30 ans cette année. J'ai grandi dans le quartier de la Caplette, dans le 10e arrondissement. J'ai été au collège Romain Rolland. Maintenant, c'est devenu le collège Louise Michel, donc c'était un collège ZEP. Ensuite, je suis rentré au lycée Marcel Pagnol, à Saint-Loup. Et j'ai fait un BTS négociation relations clients, une licence administration économique et sociale avec une classe préparatoire aux grandes écoles. Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce, donc Montpellier Business School. J'ai fait un an à Montpellier. Ensuite, j'ai fait un échange de 6 mois en Suède et 6 mois à Paris. Ensuite, j'ai fait une alternance. J'ai travaillé un peu donc pour un grand groupe d'agroalimentaire à Paris. Et en fait, ensuite, j'ai arrêté. J'ai décidé de redescendre à Marseille et de créer Allomigo.
Merci Zinedine. Alors quand on préparait l'émission, tu me parlais d'une certaine pudeur à parler de toi. Et donc je vais t'inviter dans une sorte d'espace sûr à partager ce que tu as envie de partager et de ne pas partager. En fait, cette première partie d'émission, nous, ce qu'on a envie de pouvoir raconter, c'est le chemin, c'est les émotions parcourues, c'est les questions qui ont amené jusqu'à la création de ton projet. Et donc là, toi, tu nous parles vraiment d'un enracinement très, très fort ici, Marseille. On est à la Friche de la Belle de Mai. C'est pas loin d'un endroit où t'as passé une bonne partie de ta vie. Et en parlant de l'émission, tu nous parlais de valeurs très fortes qui sont venues tracer des sillons sur ton chemin, que sont la question du partage et ensuite la question de la générosité du lien. Est-ce que tu veux nous présenter ces valeurs qui ancrent tes engagements?
Déjà, je suis content d'être à la Belle de Mai parce que j'y ai un petit peu vécu. Et c'est le quartier où mon père a grandi. Et il y a aussi encore de la famille qui habite ici, ma grand-mère, mon oncle. Sur les questions du partage, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est une vraie valeur que ma famille m'a transmise. Je t'expliquais tout à l'heure, dès qu'on on a discuté ensemble avant l'émission, que par exemple, ma mère m'a toujours dit que j'avais pas le droit de manger quelque chose devant quelqu'un qui n'était pas en train de manger. Et donc ça, c'est une des valeurs que mes parents m'ont transmises. Et ma mère a aussi invité souvent du monde à la maison. Pendant le mois de Ramadan, ça pouvait arriver que des personnes restent un mois chez nous. Et donc, c'est vraiment des valeurs que mes parents m'ont transmises. Et au-delà de me les transmettre, ils les ont vraiment incarnées.
Et que tu incarnes à ton tour.
Je te remercie.
On aura l'occasion de pouvoir en parler encore plus après pour montrer comment toi-même tu les incarnes. Donc, il y a la question du partage, mais il y avait aussi ce que tu m'as présenté après sur la question de la générosité et du lien. Parce que je trouve que finalement, ça fera bien le lien avec El Omigo derrière sur comment est-ce qu'on repartage des choses et puis on crée des mondes, des ponts entre des personnes qui viennent d'horizons différents. Et à Marseille, je pense que tu y as été confronté toute ta vie.
Le lien pour moi quand j'étais enfant, c'était surtout aller jouer au foot. Donc j'étais pas très, très bon. Oui, effectivement, la question de l'égalité des chances, j'y ai été consacré assez rapidement. Parce que dans le collège où j'ai été, il y a plus de 80% des personnes qui étaient au collège avec moi, qui sont allées en lycée pro, en CAP, et je pensais que c'était quelque chose qui était normal, en fait. Je me disais, en fait, il y a 10%, 20% qui suivent un cursus en lycée général, et c'est tout à fait normal. Et entrer au lycée Marcel Pagnol, c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout le cas dans les autres collèges. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi, dans le collège où j'étais, 80% des personnes qui faisaient leur scolarité dans ce collège-là ont été envoyées vers ces filières-là? Donc ça a été une vraie question pour moi.
On aime bien dans l'émission de La Forêt des Possibles faire des liens, nous aussi, entre différentes émissions pour montrer que des synergies se créent entre des initiatives des uns et des autres. Il y a une personne qu'on a reçue il y a un tout petit peu moins d'un an qui s'appelle Anissa Bécouche, qui est mon ancienne conseillère Pôle emploi, et qui ensuite a été incubée avec moi chez Intermade pour porter un projet qui s'appelle 6 générations. Et en fait, Anissa, comme toi, elle vient des quartiers nord de Marseille. Et ensuite, elle est partie pendant très longtemps à Londres en tant qu'expatriée. Et il y a un sujet qui lui tient très particulièrement à cœur. C'est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'égalité des chances et que l'école, finalement, redirige un certain nombre de personnes, notamment en fonction de leurs origines socio-professionnelles, culturelles, vers tel et tel type de filière. Et ça la révolte. Et si elle a appelé son association 6 générations, c'est qu'il y a beaucoup d'études sociologiques qui démontrent qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté quand on y est, et de manière plus générale, pour changer de classe de manière pérenne. Surtout quand on vient de classe populaire, parce que quand on vient de classe plus dominante, on peut descendre plus rapidement. Quoique.
Avec les héritages, normalement, ça devrait aller. Hein.
Voilà. Et donc, ça, c'est aussi un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Et maintenant, donc, elle vise aussi à faire ces connexions-là. Et donc, c'est intéressant de voir que toi aussi, par ton parcours, en fait, tu l'as constaté. Et j'imagine que ce n'est pas le seul moteur de l'engagement qui ensuite t'amène à vouloir porter des projets.
Non, c'est pas le seul moteur. Je pense que, comme je te l'ai dit, il y a mon éducation, la vraie conviction que Marseille et la France de manière générale, pour qu'elle aille mieux, il faut qu'il y ait plus de mixité sociale, que les gens se rencontrent, que les gens se parlent, et qu'il y ait un syncrétisme positif qui se crée grâce à ça. Et donc oui, c'est vraiment ces raisons-là. Ma vie en tant que salarié aussi, où quand tu travailles, t'as pas forcément le temps de t'engager. Moi, j'ai eu l'occasion de m'engager quand j'étais en école de commerce, J'étais dans l'association caritative de l'école. Et arrivé dans le monde professionnel, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir s'engager.
Parce que quand ensuite je t'ai demandé quel avait été toi ton parcours, et puis tu l'as présenté tout à l'heure, tu m'as dit que toi tu avais fait un bac général parce que tu avais été bon sans rien faire. Et juste après tu as enchaîné en disant oui mais en fait j'ai quand même reçu un bon bagage parce que, enfin je te laisse si jamais tu veux le présenter, mais que tes parents avaient veillé à la fois t'ouvrir avec beaucoup de curiosité de culture générale tout en étant un peu attentif aux notes et que finalement ça avait coulé de source, mais que l'école... elle avait, là où tu avais été, pas forcément été toujours à proposer tout le terreau favorable pour que tout le monde puisse aller suivre les chemins qui leur parlent.
Alors j'ai été un élève bon au collège, moyen au lycée, et après j'ai fait les efforts qu'il fallait pendant les concours pour pouvoir réussir à rentrer en école. Et j'ai pas été non plus un excellent élève, et c'est parce que je faisais pas grand-chose. Mais effectivement, ma mère a toujours été attentive aux notes, elle a transmis la valeur de travail, d'arriver à l'heure au collège, d'arriver à l'heure au lycée. Et mon père est quelqu'un de très curieux, avec une grande culture générale. Et donc il m'a ouvert l'esprit sur plein de sujets politiques, économiques. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle un jour sur deux pour parler de tout ça.
Moi j'ai une question, tu as fait une école de commerce qui aujourd'hui apparaît comme... une voie un peu royale, qui est hyper prisée. Moi, j'ai fait ça aussi un petit peu. Et aujourd'hui, tu viens de parler d'un projet d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat dans les écoles de commerce, c'est quelque chose qui est super valorisé, hyper encouragé. Mon avis, c'est que dans ce genre d'école, j'ai l'impression qu'en tout cas... c'est est-ce que tu as l'impression que cette école, elle t'a outillé pour entreprendre des projets qui permettent de résoudre des enjeux de justice sociale ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on t'apprend à résoudre des problèmes dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu t'es senti outillé par ce parcours-là ou est-ce que c'est venu d'ailleurs
Ça m'a donné les bases, en tout cas, sur plein de sujets différents concernant l'entrepreneuriat. Ensuite, l'école m'a beaucoup aidé au moment de l'incubation, parce qu'en fait, ils ont un incubateur social, et ça m'a pas mal aidé. L'école veut quand même mettre en avant des projets qui ont des vertus sociales, environnementales, et donc ils commencent à être habitués à accompagner ce type de projet-là, en tout cas.
Eh bien, je propose que nous passions du moi au nous, et puisque tu parlais de projets... à portée environnementale et sociale, c'est un peu l'ambition d'Alomigo, et de pouvoir avoir une approche assez complète, à la fois territoriale, à la fois vraiment sur l'aspect social, sur beaucoup plus de partage entre des mondes qui ont de grandes disparités économiques, et avec aussi un impact sur la pérennité du territoire pour pouvoir s'adapter aux différentes catastrophes climatiques en cours. Est-ce que tu peux nous le pitcher avec tes mots ? Je sais que le 10 décembre dernier, tu étais à Paris, Zinedine, et tu étais à Paris devant 500 personnes pour pitcher ton projet. Je ne sais pas combien de temps ça prenait, mais ce que je te propose, c'est peut-être de nous partager ce que tu as dit au moins sur le début.
j'étais à Paris, j'étais en finale du prix Gabriel. Alors ce que j'ai dit au début, c'est « si je vous dis les quartiers nord de Marseille, là dans votre tête... » C'est la guérilla, trafic de drogue, Kalachnikov, règlement de compte. Mais moi, ce que j'y ai vu, c'est surtout de la pauvreté et de la précarité. Et après, je parle du quartier de la Belle de Mai, et je dis que dans ces quartiers-là, il y a plein d'associations qui font un travail extraordinaire. Et dans ces quartiers, les quartiers nord de Marseille, il y a aussi des grosses entreprises, avec des valeurs fortes. Et ces gens ne se rencontrent pas et ne se parlent pas. Et Alomigo, C'est fait pour ça. C'est la raison d'être d'Alomigo, c'est de mettre en relation les salariés d'entreprise avec les associations locales en QPV qui ont besoin d'aide. Donc ça pourrait être pour tout type d'aide différent. Ça peut aller de nettoyer un parc public avec une association, ça peut être refaire le site internet d'une association, mais en tout cas créer des synergies. Ça peut être aussi mentorer des jeunes du quartier où l'entreprise est implantée pour trouver du travail, pour les aider dans leur scolarité. Voilà, tout est possible.
Et alors souvent, quand on fait un pitch, il y a des conseils qu'on appelle le cercle doré, avec le pourquoi, comment, quoi. Là, tu nous as un peu raconté le pourquoi. Est-ce que tu veux aller plus loin dans le sens profond de la démarche ?
Sur le comment, tu veux dire ?
D'abord sur le pourquoi. Là, tu nous as un peu présenté, mais est-ce qu'il y a d'autres... En fait, le sens profond, c'est le lien.
Le sens profond, c'est créer du lien, de la mixité sociale et surtout apporter de l'aide à des associations qui en ont besoin.
Okay.
Voilà. Et c'est créer des synergies. Les quartiers nord de Marseille, c'est 85 000 emplois. C'est des énormes, des très grosses entreprises comme Fatec Group, comme Haribo. Et en fait, il faut que ces entreprises-là rayonnent sur leur quartier pour qu'il n'y ait plus de quartier nord, quoi. Enfin, les quartiers, que le terme nord soit juste la localisation géographique. Et que ces lieux deviennent des... Enfin, c'est la fin de mon pitch, hein, des lieux de richesse sociale, culturelle, environnementale. Après, c'est, je suis conscient que c'est un millième de ce qui doit être fait. Hein. Mais il faut le faire aussi.
Bah, en l'occurrence, tu situes ton regard. Donc tu t'expliques d'où tu viens, toi-même tu as grandi, tu expliques ton chemin, et donc tu veux y participer. Et donc tu es absolument légitime à avoir cette ambition, au contraire, on t'y invite. Et donc comment est-ce que tu t'y prends pour réussir à créer ce lien, créer ces synergies, et finalement ces richesses partagées?
Alors on va trouver, une fois qu'on signe une entreprise, on va trouver des associations locales qui sont vraiment à 1 km, 1,5 km du lieu d'implantation d'entreprise. Et on va en choisir 5 ou 6 parce qu'on veut maximiser l'impact avec ces associations-là. On ne travaille pas avec les énormes assos parce qu'on se dit qu'ils ont déjà pas mal d'aide. Et donc sur des sujets qui sont importants pour la vie du quartier, mais aussi qui correspondent aux enjeux RSE de l'entreprise.
Est-ce que tu peux donner quelques exemples, en tout cas sur des sujets qui sont importants pour la vie du quartier ?
Les sujets importants de la vie du quartier, ça peut être le fait que le quartier soit propre, donc donner un coup de main pour ces questions-là. Ça peut être aussi, il y a l'association Rebondir 13, qui est dans le quartier des Crottes, qui aide les associations, qui aide les familles plutôt, dans toutes leurs démarches, la CAF, pour tous les sujets quand ils ont des difficultés à le faire. Donc mettre des salariés d'entreprise pour les aider, on peut avoir plus de jours, plutôt d'heures d'ouverture, et donc aider plus de familles, quoi.
Et alors, comment est-ce que tu les références, ces associations ? Parce qu'à un moment, je t'ai vu à l'épopée avec un stagiaire à qui tu avais confié cette tâche. vous avez un catalogue, tu vas leur parler directement, comment ça se passe ?
Alors, pendant longtemps, on a référencé plein d'associations différentes, on a eu plusieurs centaines de référencés. Et aujourd'hui, on ne travaille plus du tout comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sourcer vraiment des associations à côté du lieu de l'implantation de l'entreprise. Et donc, on ne va plus référencer des associations en amont. La raison pour laquelle on a décidé de faire ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'associations qui étaient déçues, malheureusement, parce que parfois, on n'avait pas les entreprises pour les aider. Donc on a complètement changé de manière de fonctionner. On trouve l'entreprise, et ensuite, en fonction des compétences de l'entreprise, des enjeux du quartier et des besoins des associations, on va trouver les associations.
Ouais, donc il faut vraiment avoir une vraie expertise, connaissance à la fois de l'entreprise, mais derrière du territoire, des besoins du territoire, des associations du territoire. Et avec le parcours que tu nous as présenté au début, c'est sûr que ça fait absolument sens. Tu dis « on », c'est quand j'imagine que le « on » imbrique d'autres personnes.
« On », c'est mon associé et moi.
Voilà. Et alors lui, il est sur quelle partie ?
Lui, il s'occupe exclusivement de la partie technique. Il est ingénieur informatique. Et donc ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que c'est secondaire, c'est le moyen, on va dire. C'est que tout ça se fait via une plateforme informatique. Donc les associations vont poster leurs besoins sur la plateforme et les salariés vont répondre à ces besoins-là. Voilà. Comment on fait ? Il y a un responsable de l'entreprise qui va placer les salariés sur les besoins en question. Voilà comment on fonctionne. La plateforme va aussi permettre de garder toute la data sur ce qui a été fait. Donc ce qui va nous permettre de remplir la partie de la CSRD qui correspond à l'impact positif en local. Et il va y avoir de l'aide aussi sur toute la partie juridique et fiscale qui va être mise en place via la plateforme, donc qui va être facilitée.
Alors la CSRD, on en parlera un petit peu après parmi des sujets de transformation de société dans la partie du nous au tout, mais je te propose qu'on l'aborde un peu plus loin.
Ça marche.
Zut, j'avais une question, mais qui est en train de m'échapper à l'instant.
Moi, j'ai une question, sinon. Vas-y. Mais du coup, les entreprises, quand elles travaillent avec vous comme ça, j'imagine que ça va aller rencontrer des points de leur politique RSE. Mais est-ce qu'il y a aussi des enjeux de, je sais pas, de défiscalisation par du don, par du mécénat de compétences comme ça ?
Effectivement.
Ok. Et vous délivrez en fait des rescrits ou des...
On aide en tout cas. Mm-mm. On aide à éditer les reçus. On simplifie avec des le contrat qui est envoyé aux deux parties et on essaie de simplifier au maximum en tout cas.
Moi, j'ai deux questions finalement. Elles me sont revenues en tête
le
temps que Jeanne te pose la sienne, et c'est justement la question de Jeanne qui m'a permis de me rappeler la mienne.
Merci Jeanne.
Bah oui, merci. La première, c'est finalement, je suis une entreprise qui t'écoute ce soir. C'est quoi le parcours que tu vas lui proposer? Ça va être quoi le différent cheminement? Parce qu'on espère que l'émission va pouvoir apporter le fait de se montrer intéressé par ta démarche.
Déjà, on va proposer un beau diagnostic fait par la Forêt des Possibles. Pour connaître les aspirations des collaborateurs.
Quel passe-dé.
Et les enjeux.
Dommage que l'OM ait perdu hier, mais vraiment.
On n'était pas loin. Hein.
C'est joué au
foot. Oui, il a raté le pénalty.
Ouais,
vas-y.
Un diagnostic, c'est de comprendre les enjeux de l'entreprise en termes de RSE. Essayer de comprendre les enjeux prioritaires du quartier. Ensuite, c'est sourcer les différentes associations en fonction des compétences des collaborateurs et des besoins du quartier. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va voir les associations et on leur demande de référencer leurs besoins sur plusieurs mois. La plateforme aujourd'hui, elle est plutôt... On peut faire les deux, mais on a tendance à privilégier le fait qu'elle soit utilisée par un responsable, donc par exemple le responsable RH, qui va pouvoir voir quel collaborateur il peut mettre à disposition de quel asso. Donc d'abord, les collaborateurs disent qu'ils ont envie de... Il y a un appel à volontariat, disent qu'ils sont OK pour faire du mécénat de compétences. Et ensuite, dès qu'on voit que ça colle avec la compétence, le collaborateur est mis à disposition de l'asso.
Merci. Là, j'ai une deuxième question que j'avais en tête en écoutant Jeanne. Tu parlais des politiques de CSRD, tu parlais du fait de pouvoir émettre des rescrits fiscaux. Je sais aussi que tu es assez fort pour tout ce qui concerne le fait de faire de la prospection commerciale, puisqu'on travaille un peu là-dessus, qu'on se reverra demain là-dessus.
Ouais.
Tout ça, en fait, ça demande quand même de la technique, c'est du hard skills. Tu vois. Là, on est au-delà de juste de la mise en lien et le fait de savoir être... la CSRD, là, Félix me pointe le simple fait de savoir qu'est-ce que c'est. Tu vois. Donc, ma question...
Merci, Félix.
C'est qu'est-ce que c'est que la CSRD, pardon. Et la deuxième chose, c'est dans quel écosystème tu gravites pour aussi avoir accès à cette information qui est technique. Peut-être que tu t'es formé toi-même, peut-être que tu es aussi avec des incubateurs et des gens qui te permettent de rester en veille sur toutes ces actualités.
Par rapport à la CSRD
ouais,
en particulier
sur la CSRD et puis les enjeux fiscaux qui bougent et qui nécessitent de la technique. Donc, définition et comment tu...
Sur les reçus fiscaux, y a pas mal d'informations que j'ai apprises tout seul en regardant sur Internet. Il y a plein d'informations sur Internet, mais après, il faut se faire accompagner forcément d'un avocat fiscaliste parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc oui, un avocat et autodidacte. Et ensuite, sur la CSRD, pareil, il y a plein d'informations en libre service. Donc je me suis auto-formé. Après, pour la question de Félix, qu'est-ce que la CSRD ? La CSRD, c'est une réglementation européenne qui va obliger certains types d'entreprises, donc il y a plusieurs critères pour être obligé à le faire, à remplir un rapport RSE sur différents items. Et notamment, nous, on travaille beaucoup sur l'item ESRS3, donc de S3 de la CSRD, la norme 3, qui est communauté impactée. Communauté impactée, c'est qu'est-ce que vous faites pour les communautés locales. Donc ils sont obligés de dire comment ils rentrent en contact avec elles, quelles sont leurs politiques en leur faveur. Et donc tout ça, il faut faire un rapport pour le dire. Et donc nous, on les aide à avoir ces politiques-là et ensuite à faire le rapport via l'Omigo. Il faut savoir que pour moi, une entreprise aujourd'hui qui est implantée en quartier prioritaire, c'est forcément un enjeu pour elle, les communautés impactées en quartier prioritaire. Forcément.
On va bientôt arriver au niveau de la pause. Est-ce que y a des éléments très importants de l'Omigo qu'on a oublié d'évoquer par nos questions ? Tu nous disais que tu voulais t'ouvrir de manière plus large.
Oui. Alors aujourd'hui, à l'Omigo, c'était surtout de la mise en relation avec des associations pour faire du mécénat de compétences. Et nous, notre objectif là, sur les mois qui arrivent, c'est d'ouvrir à tous les acteurs locaux. Quand je dis tous les acteurs locaux, c'est les collèges et lycées aux alentours. Parce qu'il y a certaines grandes entreprises dans les quartiers nord, que je ne vais pas nommer, qui sont très proches de lycées professionnels, qui sont en rapport avec les métiers qui sont en fait présents dans leur entreprise. Et ils n'ont aucun rapport avec eux. Et les filières professionnelles, on est bien placé. Enfin, je connais beaucoup de gens qui y sont allés. Je sais qu'elles sont malheureusement pas assez valorisées. Et donc, le fait de créer des liens entre ces entreprises-là et les lycées pro, par exemple, ou les collèges aux alentours, ça va permettre aux gens de se valoriser, de voir que leur métier est valorisé. Et on peut le faire de différentes manières. En prenant des stagiaires, par exemple, Donc là, ça va être le besoin du lycée pro, ça va être des places pour des stagiaires, mais aussi avec des rôles modèles qui vont venir dans les lycées et qui vont pouvoir dire moi, j'ai peut-être été à votre place il y a quelques années, et aujourd'hui, j'ai tel métier, je gagne tel salaire, voilà comment on peut y arriver. Parce qu'il y a aussi une grande méconnaissance des différents métiers possibles.
Je trouve que tout ce que tu partages fait vachement le lien avec ce que tu nous racontais de ton parcours, et on voit la connexion à la fois sur la question du partage, sur la question du lien et sur le fait de... On évoquait le fait que l'égalité des chances est un terme que moi, j'aime pas beaucoup. Félix ? Ah oui. Moi-même, je dois me rapprocher de mon micro, comme quoi.
Je suis pas le seul, parce que depuis tout à l'heure, Marin me dit « Tu parles pas dans le micro ». J'espère qu'on va m'entendre, quand même.
Faut que tu fasses le lien avec ton micro, Marin.
Faut que je fasse le lien avec mon micro. Donc, je ne regarde plus tout à fait Zinedine, je vais regarder vers Félix, parce que vous ne voyez pas la représentation de la salle. Oui, donc je trouve que ça fait vachement le lien, pour le coup, avec à la fois tes valeurs, ton parcours, là d'où tu as grandi, et puis aussi ce que tu as analysé de la situation de la société, et du fait qu'au collège, tu trouvais que beaucoup des personnes qui étaient au collège avec toi n'ont pas été orientées vers des études qui auraient pu être plus poussées, parfois aussi vers des études qu'ils ont en partie subies, plutôt que de choisir en conscience, de se dire « j'ai envie de faire... » telle chose, parce que c'est pas tant le fait de faire un bac général ou un bac pro et de se dire il y en a un qui est meilleur que l'autre.
Bien sûr.
Y a plein de personnes qui font des bacs généraux et qui ensuite se disent mais en fait je sais rien faire avec mes mains et je fais plein de bullshit jobs, ça n'a aucun intérêt, et qui ensuite deviennent pâtissiers ou deviennent artisans de... Enfin,
souffleur de verre.
Voilà, souffleur de verre ou réparer des vélos. Enfin bref, c'est pas tant le fait d'avoir une hiérarchie, mais le fait que de l'avoir choisi. Et donc là, le fait que tu veuilles faire un peu ce lien entre des univers qui se côtoient mais qui ne communiquent pas. Moi, c'est ce qui m'a toujours absolument frappé pour avoir fait mon service civique à Félix Piat, c'est quand on arrive au niveau des tours de la CMA-CGM et de se dire qu'à littéralement 300 mètres, il y a des anciennes usines qui étaient squattées par un certain nombre de communautés qui vivaient dans des conditions qui étaient totalement indignes, et de se dire mais ces mondes-là sont géographiquement si proches, et pourtant on réfléchit avec des échelles de grandeur quand on parle de chiffres qui se comptent avec, je sais pas, peut-être 9 zéros de différence, peut-être même encore plus. Ça a toujours été quelque chose que je trouvais absolument ébouriffant. Et là, on commence un peu à faire le lien entre le passage de ton projet vers la société et donc le nous au tout. Et ce que je te propose, c'est qu'on prenne un petit moment de respiration musicale, Zinedine, et que tu nous dises la musique que tu as décidé de nous faire écouter ce soir.
Alors, la musique que j'ai décidé de vous faire écouter ce soir, c'est « Demain, c'est loin » de IAM.
Eh ben merci. Alors est-ce que juste peut-être tu veux nous expliquer pourquoi tu l'as choisi, si jamais il y a une raison.
Je vois aucun lien.
Parce que c'est une musique que j'aime beaucoup, tout simplement, et que c'est vrai qu'il y a un lien, évident entre ce que je dis et la musique. Voilà. J'ai hésité avec Né sous la même étoile aussi. Il y a un lien aussi évident.
Oui, les deux avaient un lien évident. Comme la musique est longue, on n'écoutera peut-être pas jusqu'au bout. Donc,
ça, c'est vraiment dommage par contre.
Mais tu te proposais de la chanter a cappella par contre.
Oui, tout à fait.
Le reste, les 4 minutes qui restent.
Je vous chanterai après l'émission, si ça ne vous dérange pas. Okay. Allez, à tout de suite. Merci.
Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit un plus, jamais je ne l'ai revu. Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné frère, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger, en deux temps trois mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend, tour de bras, on fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie. et parle pas de RMI. Ici, le rêve des jeunes, c'est la Colt GTI. Sur Vettakini, tomber les femmes à l'aise comme Pani. Sur Scarface, je suis comme tout le monde, je délire bien. Dieu merci, j'ai grandi, je suis plus malin. Lui, il crève à la fin, la fin justifie les moyens. 4, 5 ou malsains, on tient jusqu'à demain. Après, on verra bien, on marche dans l'ombre du malin. Du soir au matin, tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin. Chemin, y'en a pas deux pour être un dieu, frappé comme une enclume. Pas tomber les yeux, l'envieux toujours en veut une route pour y entrer, 2% sortir, 3 quarts cuir, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir. Souvenir, être si jeune, en avoir plein le répertoire. Des carrés de la carte qu'on efface comme un tableau du pas, c'est le noir. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs. Vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs. Tiroirs, on y passe notre vie, on y finit avant de connaître l'enfer. Sur terre, on construit son paradis, fiction. Des illusions trop fortes, sort le chichon. La réalité, tape trop dur, besoin d'évasion. Évasion, effort d'imagination. Ici, tout est gris. Les murs, les esprits, les rats la nuit, on veut s'échapper de la prison. Une aiguille passe, on passe à l'action. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs, certains chanceux en ont dans la cervelle, d'autres se les envoient. Pour une poignée de bif, ton guerre fraternelle, les armes poussent comme la mauvaise herbe. L'image du gangster se propage comme la gangrène. T'aimes ces graines de délinquants. Qu'espériez-vous tout jeune? On leur apprend que rien ne fait un homme à part le franc. Du franc tireur discret, au groupe organisé, la racine devient champ. Trop grand, impossible à arrêter. Poisseux au départ, chanceux à la sortie, on prend 3 mois le bruit court. La réputation grandit, les barreaux font plus peur. C'est la routine, vulgaire épine, finesse, esquisse à l'encre de Chine. Figurine qui parfois s'anime, animée d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait, on jette le dé, faut flamber. Perdre et gagner, rentrer avec quelques papiers, en plus ça aidera. Personne demandera d'où ils sont tombés. Tombés, ou pas pour tout, pour rien, on prend le risque, pas grave cousin. De toute façon, dans les deux cas, on s'en sort bien. Vivre comme un chien ou un prince, y'a pas photo, on fait un choix. Fait crier le gigot, briller les joyaux, un rêve, plein les poches. Mais la cible est trop loin, la flèche qui coche, le diable rajoute une encoche trop moche. Les mecs cochent leur propre case, décochent pour du cash. J'entends les cloches à coups de pioche, creuser un trou, c'est trop fastoche. Fastoche, facile le blouson du bourgeois docile. Des mémés la hantise et porcelaine dans le pare-brise. Chaque rasoir sur le sac à main, par ici les talbins. Ça c'est toute la journée, lendemain après lendemain. Lendemain, c'est pas le problème. On vit au jour le jour, on n'a pas le temps. Ou on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé. Au fur et à mesure, on avance en surveillant nos fesses pour parler au futur. Futur, le futur changera pas grand chose. Les générations prochaines seront pires que nous. Leur vie sera plus morose. Notre avenir, c'est la minute d'après. Le but anticipé, prévenir avant de se faire clouer sur un banc, rien d'autre à faire. Voix de la bière. Siffle les gazières qui n'ont pas de fer. Les murs nous tiennent comme du papier, tu mouches. On est là, jamais on s'en sortira. Satan nous tient avec sa fourche enfourchée. Les risques, seconde après seconde, chaque occasion est une pierre de plus ajoutée à nos frondes contre leur laser. Certains désespèrent, beaucoup touchent terre. Les obstinés refusent le combat suicidaire. Sidéré, les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais côté de l'éternité. D'un pas fermé, décidé, préférant rôder. En bas, en haut, on va s'emmerder. Y'a qu'ici que les anges vendent à fumer. Encore une bouffé, le voile est tombé. La tête sur l'oreiller, la merde d'un instant estompée. Par la fenêtre, un truc fait son entrée. Un homme se fait braquer, un enfant se fait serrer. Pour une quartier menotté. Pieds et poings liés par la fatalité. Prisonnier du donjon, le destin est le geôlier. Le turf, la reine. On a grandi avec les jeux, gladiateurs courageux, mais la vie est coriace, on lutte comme on peut.
Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés. Friction, excitation, patrouille de civils, trouille inutile, légende et mythe débile. Hashisho Kido, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo, safilo, bloc 20, pack de Heineken dans les mains. Oubliant, tirant sur un gros joint. Princesse d'Afrique, fille mère plastique, plein de colle, raclo à la masse lunatique. Économie parallèle, l'équipe dure comme rock. Petit Don qui contrôle grave leur spot. On pète la veuve Clico, parqué comme à Mexico. Horizon cimenté, pickpocket toxico. Personne honnête, ignoré, super flic Zorro. Politicien et journaliste en visite aux zoo. Musulmans respectueux, père de famille humble. Basse qui blaste ma musique de la jungle. Entrée dévastée, carcasse de tir éclaté, nuée de gosses qui viennent gratter, lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume, partie de foot improvisée sur le bitume, golf VR6, pneu qui crisse, silence brisé par les sirènes de la police, polo façonnable, survêtement minable, mère au trait de caractère admirable, chichon bidon, histoire de prison, stupide division, un mal de 10 ans, au cliché d'Orient.
Rebonsoir à toutes et tous. Vous êtes toujours en direct dans l'émission de La Forêt des Possibles, qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de transition écologique et solidaire de Marseille et de sa région, en direct de 19h à 20h. Nous sommes toujours avec Zinedine Ailaili de Allumigo et nous adressons nos excuses aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être avaient envie de profiter du son jusqu'au bout. Et on a fait un choix difficile de se dire que nous avions envie de continuer à écouter Zinedine sur l'heure qui nous est donnée et donc de couper un peu avant la fin. Mais celles et ceux qui veulent continuer à l'écouter, elle est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Et nous, on a aussi envie de pouvoir profiter de Zinedine et de sa présence parmi nous ce soir pour continuer à lui poser des questions. Et Jeanne, il me semblait que tu avais quelques questions sur le modèle économique.
Oui, je me demandais, donc vous êtes deux dans le projet. Est-ce que vous êtes salariés? Comment ça fonctionne? Parce que je vois bien l'échange de services entre les entreprises et les associations. Mais vous, en fait, comment ça fonctionne pour opérer en tant qu'Allumigo?
C'est les entreprises qui paient. Donc il y a un prix au forfait par rapport au nombre de salariés. Et ensuite, on prend aussi des commissions sur certaines, sur des team building par exemple solidaires qu'on peut organiser avec des associations. On fait payer une formation. Voilà, il y a c'est les différentes sources de revenus.
Ok, merci. Et ma deuxième question, c'est, t'as pas l'air de vouloir trop name dropper les entreprises, mais aujourd'hui, il vous manque qui? Si tu n'as pas envie de dire les noms, il vous manque quoi en termes de compétences, en termes de secteur d'activité? Si jamais il y a des gens qui nous ont écoutés et qui ont envie de donner du temps ou de l'argent.
Il y a par exemple l'association Système D qui a besoin de refaire son site internet.
Ok.
Voilà, je donne juste un exemple, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a plein d'associations qui ont besoin d'aide au quotidien.
Ok.
Il y a... Oui.
Non, vas-y, bah, merci.
Et alors par rapport à plein de structures qui proposent d'être des sortes de guichets de mécénat de compétences, est-ce que c'est vraiment le côté ancré, territorialisé, on est à Marseille, t'es à proximité qui fait la différence?
Oui, je pense que c'est vraiment le côté ancré, donc vraiment très proche du lieu d'implantation de l'entreprise. L'idée c'est que les salariés, dès qu'ils sortent de leur bureau, ils puissent croiser les personnes de l'association et du fait de leur engagement, puissent aussi croiser les populations locales et les connaître. C'est vraiment ça l'idée. Ça, c'est pour la partie entreprise, salariés, associations. C'est aussi aider des associations locales, des petites associations. Il faut savoir que sur beaucoup de plateformes concurrentes, il y a des grosses associations qui prennent beaucoup de place. Ils vont proposer 1000 missions. Les entreprises vont se dire, on va travailler avec cette association-là parce qu'elle est connue, on va pouvoir associer son image, notre image à son image. Et donc, il y a plein de petites associations qui passent à la trappe. Une petite association qui veut juste refaire son site internet, ou qui a besoin de mentors, comme l'association de Talent Aix-Marseille. Donc on a aussi besoin de mentors. Ces associations-là, malheureusement, personne ne les aide. Donc notre idée, c'est vraiment d'aider des associations locales et des associations qui sont vraiment en besoin d'aide.
Ce que j'aimerais te proposer, Zinedine, c'est un exercice prospectif. Un exercice où, finalement, tu as réussi à faire ça. Donc ce que je vais te proposer, ça va être de fermer les yeux et de t'imaginer en 2030. J'aimerais d'abord que tu ressentes la joie d'avoir réussi. J'aimerais que tu ressentes la joie de se dire que le Marseille auquel que tu souhaites voir advenir est là. Et cette joie-là, elle est provoquée parce que tu as réussi, et j'aimerais que tu te représentes ce que c'est que d'avoir réussi. À quoi ça ressemble Marseille qui réussit, ce que tu as en tête? J'aimerais que tu fasses attention en fait aux gamins qui étaient à l'école avec toi et ceux qui seront des gamins à ce moment-là, puis ceux qui étaient gamins et ne le sont plus. Où est-ce qu'ils sont à ce moment-là? Où est-ce qu'ils travaillent? Comment ils vivent? J'aimerais que tu repenses à ces boîtes dont tu nous parles. J'aimerais que tu penses à la manière dont elles travaillent et elles organisent finalement leurs relations avec les assos, les écoles et les habitants qui sont juste à côté du site de la production. Est-ce que tu l'as en tête?
Je l'ai en tête.
Et bien, ce que je te propose, Zinedine, c'est que tu nous le projettes. En 2030, ça ressemble à quoi?
Pour moi, en 2030, déjà, ces quartiers n'existent plus. En fait, il n'y a plus de différence entre les quartiers nord, les quartiers sud. Il n'y a plus de quartiers prioritaires. Parce que tout le monde est mélangé. Tout le monde vit ensemble. L'air est pur, bonne. Il y a plein d'espaces verts. Tout le monde est heureux. Tout le monde se parle.
Tout le monde se parle. Alors comment est-ce qu'on a fait pour arriver jusque-là?
Bah, c'est grâce à Allomigo.
Oui, Allomigo a pleinement pris sa place.
Il y a bien sûr des acteurs comme Allomigo ou d'autres qui vont faire leur part du travail, mais je pense que le plus important reste la volonté politique et le fait de trouver des moyens pour créer de la mixité sociale, pour mélanger les gens. Voilà.
Et alors, à quoi ça ressemblerait ces moyens-là ? Qu'est-ce qu'un décideur politique devrait mettre en place ? Je sais que tu es fort en politique. En fait, je viens de chercher parce que je sais qu'à un moment, tu vas réussir à nous faire un plan de politique générale. Et on espère que les personnes qui nous écoutent n'ont plus qu'à l'appliquer.
C'est gentil, Marin, de dire que je suis fort en politique. Mais je pense que c'est des questions qui sont assez, assez complexes. Je ne sais pas comment concrètement on pourrait faire en sorte que les gens, avec des plans d'urbanisme, en faisant en sorte de créer des rencontres, des lieux de rencontres, en faisant en sorte de mettre beaucoup de moyens dans les collèges où il y a des difficultés, pour qu'ils aient plus de profs, pour qu'ils aient après les cours, ils aient encore des activités culturelles, pour que ça n'existe plus et qu'en fait tout soit au même niveau, on va dire.
Et d'un point de vue économique, comment est-ce qu'on arrive à mieux répartir la richesse ?
En augmentant les salaires.
Ok. En augmentant les salaires. Et alors, est-ce que ça permettra d'avoir une sorte de rattrapage entre les différents quartiers pour que ça soit plus égal dans le fait qu'il n'y ait plus cette grande cassure quartier nord, quartier sud ?
Pour qu'il n'y ait plus la grande cassure, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens des quartiers sud qui habitaient dans les quartiers nord et des gens des quartiers nord qui habitaient dans les quartiers sud. Et ça fera en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale. Que les gens s'imprennent des cultures des uns des autres.
Parce qu'on parle beaucoup de justice sociale. Tu nous as parlé de partage, tu nous as parlé... Enfin, on ne va pas tout refaire de tout ce qu'on s'est dit. Pour toi, ça veut dire quoi la justice sociale et comment ça s'incarne ?
Pour moi, la justice sociale, c'est on part tous avec les mêmes chances. Mmh. C'est tout le monde peut y arriver avec les mêmes chances. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, malheureusement.
Et alors, comment est-ce que ça s'incarne ? Comment est-ce que... Enfin, je repose un peu la question qui... Il y a des bruits à côté. J'espère que ce n'est pas entendu au micro. Comment ça s'incarne au quotidien ?
C'est-à-dire qui peut l'incarner, la justice sociale ?
Ouais, comment elle se met en place ? Ça fait partie de... On parle beaucoup de transition écologique et de justice sociale. Voilà. Mais finalement, en fait, ça s'incarne par des projets, ça s'incarne par des manières de vivre, ça s'incarne par de la coopération entre les acteurs. La Forêt des Possibles, nous, notre enjeu, c'est de pouvoir montrer ce que plein de personnes font à leur échelle, qui agissent à la fois pour essayer de limiter nos impacts sur les questions d'utilisation de la ressource et d'adaptation au changement climatique. Et ensuite, ça va être énormément d'actions qui sont menées pour qu'il y ait moins d'inégalités criantes. Et le tout, chaque structure un peu individuellement qu'on représente dans ce qu'on appelle la forêt, où le but c'est ensuite de pouvoir montrer qui fait quoi, quelles sont les interactions entre ces structures-là, quel écosystème elles forment et comment est-ce que cet écosystème passe d'une myriade de projets alternatifs à une sorte de nouveau système qui aurait vocation à devenir la norme. En tout cas, ça c'est ce que nous on essaie de mettre en place et par cette émission de radio de pouvoir fort porter ce discours-là pour avoir une transformation des imaginaires, transformation de la culture, une transformation de la manière dont on se perçoit et dont on raconte cette histoire-là. Mais pour toi, ça implique quoi ?
Je risque de me répéter, mais pour moi, la clé, c'est la mixité sociale, en fait. C'est faire en sorte que tout le monde étudie dans les mêmes collèges et lycées, qu'il n'y ait pas des collèges pour certains et des collèges pour d'autres. Et qu'on ait accès aux mêmes moyens, aux mêmes profs. Là, je parle vraiment de l'action d'éducation parce que je pense qu'elle est centrale. Et que tout au long de notre vie, on ait accès aux mêmes infrastructures, aux mêmes services publics. Je pense que ça vient en grande partie de là. La base, ça reste l'éducation. Et ensuite, c'est l'accès à tout ce qui fait que l'on vit ensemble, c'est-à-dire les services publics, les transports, avoir un logement décent, avoir un quartier propre, avoir des espaces verts, avoir de la culture à proximité, avoir de la culture pas chère. Je pense que c'est tout ça qui fait qu'on va avoir une meilleure justice sociale.
Et alors, tu sais, quand on est face à des sujets qui sont aussi vastes, Parfois, on se sent un peu désemparé en se disant « mais qu'est-ce qu'on peut bien faire ?» Nous, on essaie de décomposer les choses du mot « nous » et du « nous » au tout. Donc, pour arriver jusque-là, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'organisation ? Et puis, j'ai l'impression quand même à t'écouter qu'il y a une part qui est assez fondamentale dans la puissance publique aussi. C'est que la puissance publique, c'est aussi à elle, à certains moments, de pouvoir employer des moyens pour avoir la transformation des infrastructures, pour avoir la transformation des transports, pour mettre plus de moyens dans l'école. Finalement, pour toi, c'est quoi la balance entre ce qui peut relever de l'initiative, on va dire, du privé et celle qui, à un moment, relève du choix politique ?
Moi, je pense que c'est 90% du choix politique.
Ok.
Voilà, les 10%, bah, il faut qu'on les fasse. Mais le plus gros, c'est du choix politique. Parce que même si on arrive à mettre en relation les salariés des associations avec les habitants des quartiers, ça ne va pas régler tous les problèmes. Mmh. Donc en fait, il faut que tout le monde mette du sien pour qu'on y arrive. Et moi, je suis très lucide sur ça, en fait.
Du choix politique pour avoir une transformation de système, en fait. C'est que tu te dis, on n'est pas là pour faire des espèces de petits ajustements à la marge, mais qu'il puisse vraiment y avoir... une réallocation complète de la ressource pour qu'elle soit pas, enfin qu'elle soit en tout cas ponctionnée là où elle se situe pour être mise dans les services publics. Je te vois qui hoche la tête. c'est assez fondamental parce que nous après notre ambition là-dessus c'est le politique, ça veut pas forcément dire voter pour tel ou tel parti. C'est aussi la question de l'organisation de la société. Et
je pense que par exemple on parle beaucoup d'insécurité. Mais en fait, en voulant mettre tout le temps les mêmes personnes aux mêmes endroits avec les mêmes problèmes, et en même temps vouloir que ces personnes-là, qu'on n'ait pas 20% de logements sociaux, par exemple, dans sa ville ou dans son quartier, en fait, on est le problème et la solution. C'est-à-dire qu'en même temps, on dit que ces personnes-là créent de l'insécurité, mais en fait, on fait tout pour les laisser de côté et pour que ces personnes-là continuent à créer de l'insécurité, en fait.
Oui, et puis aussi, à certains moments, détourner un certain nombre de questions.
Aussi, bien sûr. Après, il y a des problèmes d'insécurité qui existent aussi, hein, mais il y a aussi...
Oui, c'est pas l'un ou l'autre. Mais typiquement, là, pour reprendre un des débats actuels, il y a la question de pouvoir mettre la pression sur les personnes qui ont le RSA et de dire que les personnes qui ont le RSA seraient un peu dans une forme de paresse et qu'il faut les mettre au travail encore plus. Après, il y a toute la question de si jamais vraiment vous voulez aller chercher de la ressource parce qu'il en manque dans les caisses de l'État, les super riches et les super profits ont vu leur capital être multiplié par 10 depuis 7 ans. Donc il y a aussi la question de où est-ce qu'on décide de mettre l'action politique pour pouvoir avoir cette justice sociale. Et donc finalement, cette espèce de rééquilibrage. Oui, je te vois qui hoche la tête. Jeanne, est-ce que t'as des propositions sur ces questions ?
Ouais, rien de. Ouais, en fait, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, je pensais à. Et est-ce que vous regardiez l'émission qui s'appelle On a échangé nos mamans quand on était enfant, genre.
Pas du tout.
C'est une émission de télé-réalité d'il y a peut-être 20 ans où t'avais deux mamans qui échangeaient leur foyer. Généralement, c'était deux mamans qui étaient assez éloignées sur le spectre des usages, du mode de vie, voire même de la classe, et qui, pendant une semaine, voire plus, vivaient dans la famille de l'autre. Et donc, c'était assez comique. Enfin, j'étais en train de réfléchir au fait qu'on pouvait prendre, je sais pas, 1000 foyers des quartiers sud et leur faire échanger la maison avec 1000 foyers du quartier nord. Pour au-delà d'aller voir sur le. De parler de l'action politique, plutôt essayer de développer un plaidoyer citoyen de comment en fait on fait pour sensibiliser toutes les personnes qui mettent au pouvoir des gens qui derrière ont des décisions politiques. Mmh. C'est assez trivial comme réflexion, mais je pensais à ça en fait.
Il y a une personne à Marseille qui s'appelle Tariq Ghezali qui a créé un. Enfin, qui a l'initiative avec d'autres d'un projet où les personnes qui ont des piscines peuvent ouvrir la porte de leur piscine à des enfants qui viennent de quartiers plus défavorisés. Alors, c'est pas échanger des maisons, mais c'est au moins prendre un cours de...
Ouais, ouais.
Alors qu'il y a plein de communes qui refusent que les habitants qui sont pas de la commune viennent dans leur piscine.
Ce que je trouve intéressant là, dans ce qu'on échange, c'est à la fois une transformation... Par l'action politique, il y a à la fois tout ce qui va concerner le changement du regard, parce que là, ce que tu nous partages, c'est finalement se mettre dans la condition de quelqu'un d'autre. Et donc de changer un peu le regard, changer la culture. Toi, c'est quand même un sujet qui t'apporte particulièrement, Jeanne, ce rapport à la culture et quel est le rôle de la culture pour entraîner des bascules politiques et accompagner derrière par des, par des accompagnements techniques. Tout à l'heure, tu nous parlais de CSRD Zinedine, mais finalement, si jamais on a vraiment envie d'aller dans cette direction-là, c'est les deux ensemble. C'est transformer le regard et se projeter dans une autre façon d'organiser la société, de la raconter et de considérer ce qui est bien et ce qui est socialement valorisé ou pas. Et puis ensuite, l'accompagner par des projets de loi techniques, des directives européennes comme le CSRD, qui va accompagner dans ce sens-là. Mais si jamais les deux sont décorrélés, si on n'a qu'un discours, mais derrière qu'on n'a pas de technique, bah, on reste dans le vent. Inversement, si on n'a qu'un projet hyper technique où il faut rentrer dans des cases, mais qui n'est pas accompagné par un horizon politique et un horizon culturel qui mène dans cette direction-là, ça peut être perçu comme complètement contre-intuitif, voire punitif, se dire « mais qu'est-ce que c'est que ces bâtons qu'on nous met dans les roues ?» Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ?
C'est quelque chose que je partage. Après, je pense que la CSRD, ça va vraiment faire une différence. Parce qu'en fait, il y a tellement d'items que les entreprises vont devoir respecter, qui va avoir des impacts sur les autres entreprises. Donc je pense que, sincèrement, qu'il va y avoir un impact. Après, est-ce que ça va être à la hauteur des problématiques ? Je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, ça va avoir un impact, je pense, positif. Ça va avoir une sorte d'effet domino sur des pratiques en entreprise, sur des manières de faire.
Oui, mais je pense que... Est-ce que tu ne penses pas que comprendre le sens de pourquoi c'est imposé, c'est aussi assez fondamental?
Oui, bien sûr.
Parce que sinon, on parle d'écologie punitive en disant on est encore en train de nous mettre des normes européennes.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut parler d'écologie punitive, mais on voit bien ce qui se passe. Je pense que de plus en plus de monde en ont conscience aussi. Et que... si on veut continuer à avoir un mode de vie, si on veut continuer à vivre sur cette planète, tout simplement, il va falloir qu'on change nos manières de travailler, de concevoir l'entreprise, de concevoir la manière dont on produit.
C'est vrai, là, j'ai vu une étude hier, et on pourra aussi peut-être arrêter progressivement là-dessus. 1 milliard d'euros qui n'est pas investi dans l'adaptation écologique, c'est 7 milliards d'euros de dégâts le jour où on se prend la crise. Donc on est là, on le voit de manière tragique et c'est encore plus mis en avant dans les médias avec les gigafeux qui touchent Los Angeles et qui touchent vraiment en fait des personnes extrêmement riches, pas que des personnes riches mais entre autres, et donc c'est mis sur le devant de la scène, mais c'est aussi toutes les actions qui n'ont pas été prises pour empêcher cette situation-là qui fait que quand on est face à la situation, c'est trop tard quoi. Est-ce que, Zinedine, pour laisser quand même un goût plus positif, parce que là, on a parlé de beaucoup d'autres sujets beaucoup plus positifs, tu veux nous faire une conclusion avant de rendre l'antenne d'ici une à deux minutes ? Si jamais tu avais une minute pour partager un message que tout le monde aurait besoin d'entendre, qu'est-ce que ça serait ? Je vois que tu me fais des gros yeux.
C'est la pression.
Je me suis répété plusieurs fois sur ce sujet-là, mais mixité sociale, mixité sociale, mixité sociale, je pense que c'est la clé à beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui.
La répétition, c'est la clé de l'apprentissage. Donc merci d'avoir martelé cette aspiration. Et nous espérons que celles et ceux qui nous ont écoutés auront été inspirés également par ton partage. Merci Jeanne d'avoir été au micro avec nous. Merci Sidi, Félix d'avoir assuré la régie. Merci à toi Zinedine et Laili à l'Omigo pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui ont envie de trouver ça sur Internet. J'imagine que ça se retrouve à la fois ta site Internet, Spotify, je raconte n'importe quoi. LinkedIn, ça se trouve facilement pour celles et ceux qui te cherchent.
On est partout.
À bientôt. Bonne soirée.
Merci, ciao. À bientôt.